Et ben on va commencer. Jean-Pierre, on a dit qu'on allait se tutoyer tous, donc on continue sur notre lancée. Je vais refaire la présentation. Donc là, on sort de la librairie du Bal des Ardents. On a parlé de ton dernier livre, Une théorie de l'amour. Donc, tu as été directeur artistique du Printemps des Poètes pendant 16 ans. C'est par ce biais-là que j'ai été rencontré. Ce que je trouve sympathique, c'est que tu as aussi été poète associé au TNP de Villeurbanne, donc par chez nous. Et voilà, puis tu as écrit de nombreux recueils de poésie, des romans, des livres pour enfants, des pièces de théâtre. Tu travailles maintenant chez Gallimard au niveau des éditions de la poésie. Alors, on a échangé ensemble pour savoir comment on allait organiser notre soirée. On s'est dit qu'on allait te poser des questions, donc on va t'en poser tout en même temps au départ, et puis après on te laissera...
Te dépatouiller avec.
Voilà, je vais t'en poser deux, puis il y a aussi... alors moi je vais rester très... je vais suivre ma ligne rouge, très généraliste. La question que j'ai envie de te poser, est-ce que tu penses que la poésie peut soigner ? Est-ce que la poésie peut soigner quelqu'un? Est-ce que la poésie peut soigner une société, un pays, une population? Je resterai très large dans mes questions comme ça. Et puis évidemment, après l'échange qu'on a eu autour d'une théorie de l'amour, j'y ai pensé en t'écoutant. Il y a des mots qui, on l'a dit, qui peinent à sortir, qui peinent à arriver au grand jour, et le mot amour est un de ceux-là, je pense, dans notre société. Mais en fait, c'est quelque chose qui, dans le projet de l'Ethnocafé, il y a des mots qui viennent hanter un peu le projet, qui tournent autour, et le mot amour est un de ceux-là. Et on a fait une soirée il y a 2-3 ans sur est-ce qu'on peut soigner par l'amour, est-ce qu'un soignant peut soigner par l'amour. Il y a des gens qui ont des théories sur l'amour thérapeutique. Alors, moi, je trouve ça très intéressant, mais c'est très difficile à amener. Lors de cette soirée, on a perdu quelques-uns qui ne sont plus jamais revenus avec nos cafés, parce que, franchement, un médecin qui veut soigner par son amour, c'est trop chelou. Et donc, en même temps, c'est une question qui revient tout le temps, moi, qui me paraît vraiment centrale, et je pense qu'évidemment, tu auras sûrement des choses à dire là-dessus, dans ce que tu as dit, notamment tout à l'heure, notamment de cet amour qui permet de voir les choses en plus large, en plus grand, et qui vous permet de voir l'autre en plus grand. Et comment soigner l'autre, si ce n'est en mieux le regardant, en mieux le connaissant. Et donc ce sera une question subsidiaire. Est-ce qu'on peut soigner par... Est-ce que c'est raisonnable de soigner par l'amour? Lia, je te laisse enchaîner sur tes questions.
Alors, moi j'ai entendu très récemment dans une émission que ce qui donnait notamment la brutalité de notre environnement, de nos rapports, parfois c'est des agressions qu'on subissait, c'était qu'en fait on n'éprouvait plus le sentiment de l'existence de l'autre, en fait. Que l'existence de l'autre devenait une sorte de concept. Alors, c'est pas propre à notre actualité, à mon avis, hein. Mais je me suis posé la question du coup de comment la poésie elle permet cette expérience faite de l'altérité, comment elle peut nous aider à contacter ce sentiment de l'existence de l'autre, lui redonner peut-être sa consistance, sa dignité. Il me semble que Bonnefoy parlait du fait que ça allait rendre justement à l'être sa dignité. Et qu'il ne soit plus seulement envisagé comme un concept. C'est ma première question.
On peut peut-être commencer par là, non? Parce qu'il y a déjà trois questions. Non, à moins que tu veuilles tout de suite enchaîner.
Non, vas-y. Ouais.
Parce que ce sont des questions qui très vastes déjà. Oui. Déjà, la première question, qui est la question qui est tout à fait reliée à votre préoccupation, donc est-ce que la poésie peut soigner, quoi? La question, elle est toujours d'abord une question de mots, évidemment. C'est-à-dire que la question, pour moi, se doublerait d'une autre question. De quoi on parle? Je veux dire, qu'est-ce qu'il s'agit de soigner? Et donc, d'une part, et d'autre part, qu'est-ce que c'est que soigner ? Moi, je dirais que il y a une belle façon de le commenter, c'est de le remplacer le mot soigner par prendre soin. Alors, on peut dire, là, je peux répondre d'emblée, que pour moi, c'est une des définitions de la poésie, qui est de prendre soin. Elle prend soin de ce dont on ne prend pas soin, qu'on ne prend pas en charge en général, soit par rapport à nous, soit socialement, que la société ne prend pas en charge. C'est-à-dire que tout ce qui est le secondaire, qui est considéré comme l'à côté, ou le non rationalisable, ou le non, comment je pourrais dire, le non congru, le non prévu, le non nommable. En fait, toute cette part-là, la part cachée, la face cachée de notre planète, je veux dire humaine, n'est-ce pas ? Alors je dis que la poésie prend soin de ça. Elle prend soin de ce dont on se débarrasse, parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Et c'est-à-dire que elle en prend soin autrement que ceux qui vont nommer ce que je suis en train de désigner comme une nébuleuse, en fait, de façon un peu imprécise, peut-être par cachet de l'existence ou du social, etc. Elle en prend soin autrement que ceux qui en font une fonction, c'est-à-dire les oologues dont je parlais tout à l'heure, les sociologues, les anthropologues, les psychologues, etc. C'est-à-dire qu'il y a toute cette part-là qu'on identifie, qu'on fragmente, qu'on catégorise, n'est-ce pas ? Alors, on a un réel complexe et multiple, et on essaie de le maîtriser en segmentant et en identifiant des objets précis. C'est le processus de la science, au fond, n'est-ce pas ? Donc, en quelque sorte, on dépaisse la vie. Voilà ce que je veux dire. On met en morceaux ce qui tient ensemble. C'est-à-dire que aussi bien au niveau de l'individu, c'est pour ça, regarde comme je regarde Jean, mais comment dans la médecine on fait les. Il y a des ologues pour toute partie du corps, non ? D'accord ? Voilà, ben oui, on sait ça. Et ben pour la société, c'est pareil, il y a des ologues pour toute partie du corps social, ou de tel fonctionnement social. Au fond, il y a les cardiologues du corps social, il y a les néphrologues du corps social, il y a etc., etc. Et c'est-à-dire que ce dont je parle ici, c'est un processus général qui concerne, dans la médecine, dans sa pratique ordinaire, occidentale en tout cas, est exactement l'exemple ou la métaphore. C'est-à-dire on prend la chose en segmentant et en identifiant des parcelles du réel, parce qu'on ne sait pas quoi faire de l'immense réel et de sa complexité des interactions. Et donc, ce que fait la poésie, c'est qu'elle ne segmente pas. Et c'est là où j'ai dit tout à l'heure, elle augmente le réel. En fait, elle augmente notre conscience du réel. Et elle affirme que le réel ne peut pas être catégorisé, segmenté, que tout ce qui est vivant dans le réel, et là, autant que nous, n'est-ce pas ? Tout ça est en interaction permanente.
En fait, vous faites le procès de la médecine occidentale qui segmente,
oui.
Par rapport à la médecine chinoise, orientale qui est holistique, et la poésie serait une médecine holistique.
Mais d'ailleurs,
quelque part.
Oui, ben, toutes les sciences chinoises sont assises, si je puis dire, sur la poésie.
Oui, oui.
C'est eux, et la philosophie est liée à la poésie, enfin le taoïsme, tout ça, c'est une autre conception du monde où tout est en interaction, tout se répond. Et je crois que ça, on commence à le prendre en compte, nous autres.
Oui.
Nous, on a été victimes de notre talent, qui était le talent de la rationalité. L'apport de l'Occident et même de la France, on va dire, c'était l'apport de la raison et Descartes et tout ce qui s'en est suivi. Ça va jusqu'au positivisme, n'est-ce pas ? D'Auguste Comte, etc. Mais tout ça est bénéfique d'une certaine façon,
oui.
Parce que c'est aussi une manière d'organiser notre regard sur le monde. Sauf que c'est absolutisé. Et que ça nous a fait dériver très loin de cette vérité contraire, que rien n'est indépendant, que tout se répond. Et quand on parle de médecin et de médecine, on a quand même entendu beaucoup ces dernières années la prise de conscience du point de vue de la médecine dit qu'il faut prendre en compte le patient dans sa globalité, au-delà de l'organe atteint, ou, etc., etc. Je ne suis pas sûr que ça ait de vraies conséquences, y compris dans les formations qui sont toujours scientistes, on va dire, hein, ou technicistes en quelque sorte. Et surtout que c'est le mal de notre société de tout techniciser en quelque sorte. Que tout problème ou tout fait répondrait d'une techné supérieure qui serait un savoir de référence et qui serait efficace. Donc voilà, moi je dis que, la vision que propose la poésie de l'individu et de la vie, et je fais toujours un écho avec le corps social, hein, l'individu et le corps social. Je pense que les mêmes choses se jouent à des échelles différentes. Alors la poésie depuis toujours, et c'est le mythe d'Orphée enfin, elle plaide pour une compréhension de la réalité qui serait une compréhension extensive, qui serait une compréhension de la nuance et justement de l'interaction, de l'interdépendance de tout l'existant. D'accord ? Et c'est, je dis que c'est le mythe d'Orphée, parce que regardez, Orphée, un mythe c'est une image évidemment, hein. Orphée, il c'est celui qui parle avec les arbres, qui commande au vent, j'ai écrit un texte là-dessus, c'est le premier poète au fond, n'est-ce pas ? Poète aux pieds nus. Et j'ai écrit un texte sur, qui a été joué à Lyon d'ailleurs, qui s'intitule, je ne sais même plus, enfin, « La mort n'est que la mort si l'amour lui survit », encore une histoire d'amour. « La mort n'est que la mort si l'amour lui survit ». C'est à propos d'Orphée qui dit ça, après être retourné des enfers, avoir perdu son Eurydice. Enfin bref, Orphée est une figure majeure, si on peut comprendre la poésie. Ce qu'elle imagine, c'est justement celui qui dit l'humain n'est qu'une chose parmi les autres, en quelque sorte, n'est-ce pas ? Et qu'il est physiquement, mais aussi affectivement, mais aussi, comme on pourrait dire, dans son âme, si le mot signifie quelque chose, mais moi j'aime bien récupérer ce mot âme, hein, il est en résonance, en correspondance avec tout le vivant. Il y a beaucoup de poètes qui ont fait entendre ça à travers les siècles. Mais même Ronsard, écoute bûcheron, arrête un peu ton bras, ce ne sont pas des bois que tu jettes abat. Et après il dit, mais ces arbres sont vivants. Et c'est ta propre vie que tu condamnes. C'est déjà un manifeste écologique, 16e siècle. Hein. Non mais on n'écoute pas les poètes, ils ont dit tout ça, depuis toujours. Et le mythe d'Orphée dit ça aussi. Le mythe d'Orphée, c'est avant François d'Assise. Il parle avec les oiseaux, il parle avec Orphée, c'est ça. Il est en dialogue direct, et il écoute, et il dialogue avec le monde naturel. Et, vous voyez, c'est ces choses-là dont on a fait l'impasse, cette pensée poétique du monde, qui ne sépare pas, qui ne catégorise pas, qui ne segmente pas. Et par exemple, moi je parlais de la théorie de l'amour tout à l'heure, je disais que le titre était une provocation, mais c'est justement pour poser une contre-théorie à toutes ces théories de l'amour ou de quelque chose que ce soit, pour avoir des théories de tout, qui segmentent, qui est sur l'autorité d'un savoir, qui fragmentent. Et moi je dis, il faut absolument, quoi qu'il en soit, que si on veut sortir de cette impasse, qui d'ailleurs enferme le monde dans les concepts et dans tout ce qu'on a dit, des descriptions objectives, soi-disant objectives, etc. Il faut repenser poétiquement les choses et notre regard sur le monde. Et donc ça, c'est prendre en compte le fait que tout compte, que tout doit susciter notre attention, notre curiosité et notre étonnement. Que rien n'est à passer par pertes et profits. Et donc, c'est en ça que le regard du poète augmente le réel. Moi, j'ai écrit quelque part, la poésie, c'est le vrai réel augmenté. Bien plus que c'est même exactement le réel augmenté. L'informatique, de mon point de vue, est un mensonge. C'est pas un réel augmenté, c'est un réel sur lequel on superpose des schémas abstraits. C'est un réel réinventé ou réinterprété, etc. Alors que le vrai réel augmenté, c'est le poème. Puisque le poème, c'est, comme tu disais Jean, c'est un regard d'abord. Je parlais de Perrault, c'est une manière d'être, d'habiter, de s'habiter, mais c'est d'abord une conscience qui s'ouvre. Et il n'y a de conscience que dans l'attention. Et l'attention, c'est un regard qui prend le temps, rien d'autre. C'est un figement, un espace créé dans le continuum du temps. L'attention, c'est un arrêt. C'est une apnée. C'est une, j'allais dire, presque une pesanteur, une lenteur revendiquée et contre-productive dans le monde où on est, qui est complètement antagoniste du cours ordinaire des choses, puisque c'est une rupture dans le mouvement ordinaire des choses qui est celui de l'avoir qu'il faut, c'est l'avoir. On bouge pour avoir, en fait. Hein. Puisque certains diront, mais on bouge pour être, ben oui, mais c'est sous la condition de l'avoir. Alors, ce que je veux dire, c'est que la poésie, c'est le moment où qui que ce soit, comment je pourrais dire, fait agir profondément sa conscience. Plus profondément, c'est pas une conscience de surface, c'est pas une conscience qui note les choses, qui enregistre les faits, les évidences, etc. Là, il s'agit d'une conscience scrutative. Je parlais d'étonnement, de curiosité, de regard dans la lenteur, etc. Or, ce regard-là... Ce regard-là, qui est le regard poétique, moi je dis qu'il est consubstantiel à l'humain. Et c'est pour ça que je dis que la poésie est consubstantielle à l'humain. C'est-à-dire, nous avons tous en nous la compétence poétique. Et cette compétence poétique, on l'a dit souvent, mais il faut aller au-delà du cliché, il faut comprendre pourquoi on le dit, elle est mise en œuvre par l'enfant. Et bien sûr, car l'enfant est capable de cette attention supérieure dont je parle. Parce qu'il est capable, comme il découvre tout, que tout est surprise pour lui et qu'il a un appétit par bonheur de tout. L'enfant, qui, en tout cas, disons qu'il n'est pas marqué par des blessures autres, etc. L'enfant lambda, on va dire. Et ce qui fonde un enfant, c'est le regard, la stupéfaction de l'enfant devant la mère. C'est l'enfant qui s'arrête dans une course parce qu'il a vu un papillon. Et qui s'arrête. Et qui oublie tout. Le ballon après lequel il court, etc. Ou qui peut traverser la rue simplement parce qu'il y a un truc qu'il veut absolument voir et que... C'est-à-dire cette exclusivité, cette passion de la chose à saisir, cette gourmandise du réel, l'enfant il l'a. Et lui il a ce regard qui peut prendre le temps, qui peut s'émerveiller, au sens propre de s'émerveiller. Et ça veut dire quoi ? S'étonner, ça veut dire quoi ? J'ai de l'inconnu à retrouver dans ce connu.
C'est un poème, l'enfant.
Mais ça veut dire qu'il y a du connu. Mais c'est surtout que lui, il voit un poème dans tout. Il voit dans tout un sens possible au-delà de ce qui est immédiatement perceptible. Alors ça, c'est très important parce que ce regard-là que nous avons tous, qui est le regard qui augmente le réel, qui nous fait prendre le réel dans ses dimensions les plus vastes, et c'était vertigineux, parce que toute chose de vraiment regardée, on s'aperçoit que sa lecture est infinie. C'est ce qu'on appelle l'amour. Une lecture infinie des choses, ou des êtres, ou d'un objet. Dès qu'on se dit, ma lecture, elle n'est pas finie, elle n'est pas une prise d'information immédiate satisfaite de ces informations récupérées, ça c'est notre regard habituel, notre regard d'adulte, c'est un regard de prise d'information. Et on n'arrête pas à toute vitesse de prendre plein d'informations, et nous sommes autant adultes et intégrés et assurés de notre cheminement social que notre regard est assuré de ces informations. Il sait tout de suite ce que c'est, interpréter, donner un sens, identifier un sens, etc. Donc c'est passe au père par préservophie, ou déjà su, déjà vu, etc. C'est suffisant. Et donc, on est tellement, nous tous, adultes, soumis à ce regard, prise d'information qui satisfait au quotidien de la vie, qui nous permet même d'être très actifs socialement, n'est-ce pas ? On est tellement vite satisfait de ça qu'on a très tôt, je veux dire endormi, sinon tué, en tout cas vraiment réprimé, l'autre regard. Le regard antagoniste, le regard de l'ennui ou de la paresse. Le regard dévalorisé parce qu'il n'est pas efficace. Parce qu'il prend un temps, on va dire, illégitime. Un temps, pour presque rien, il prend un temps démesuré. On vous dit de prendre du temps pour des choses graves et importantes, qui sont en fait secondaires. Et les choses essentielles, on ne prend pas le temps. C'est pour ça que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ma pensée a fait une boucle, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que c'est pour ça que le poète est celui qui prend soin. Il prend le temps du regard. et le prendre le temps du regard, comme le disait Elia tout à l'heure, c'est redonner à chaque chose, puisqu'on prend le temps. Pour la chose la plus infime, ou le geste le plus anodin, on prend le temps de lui donner valeur, on lui redonne une dignité, un sens. On lui donne une présence, une existence même. Et c'est ce que fait tout artiste. Le peintre, et voir le musicien, il le fait avec le son. Il le fait avec le silence. Car s'il y a du silence, c'est parce qu'il y a des musiciens. C'est eux qui nous réapprennent qu'il y a une profondeur dans le silence. Mozart ou Bach. Voilà ce que je crois. Et tout geste artistique profond, il est là. Moi, quand je parle de poésie, je l'ai dit dans le petit essai, je crois, le petit éloge de la poésie, quand je parle de poésie, je parle d'un acte poétique premier dont nous avons tous le partage, que nous ne pratiquons pas, que nous oublions, que nous perdons, mais que font vivre tous les artistes, quels qu'ils soient. Le poète, il le fait dans le langage. Chacun le fait dans là où il est, dans cette part du réel qu'il investit prioritairement. Vous voyez ? C'est ce que je crois. Mais c'est pour ça que les peintres, les musiciens, les poètes ont cessé, et les danseurs ont travaillé ensemble depuis toujours. C'est-à-dire qu'ils sont là pour augmenter le réel. Pour nous rappeler que le réel n'est pas réductible au sens immédiat, à la crête des choses, au sens immédiat et confortablement consenti. La poésie est un inconfort. Pessoa le disait, il a parlé de l'intranquillité magnifiquement, n'est-ce pas ? Oui, ce que nous demande la poésie, c'est d'être intranquille. Mais c'est-à-dire de ne pas être quiet au sens... Il demande d'être inquiet. Moi, je dis que sa poésie est une inquiétude heureuse. Attention, quand je dis ça, c'est une inquiétude de l'intelligence. On n'est pas dans le quiétisme. Tu sais. Là, il y a comme... Quand je dis l'inquiétude, je prends des termes paradoxaux, surprenants, exprès, pour qu'on réfléchisse à ça. C'est-à-dire une conscience inquiète, ici, ce n'est pas une conscience douloureuse. C'est une conscience qui ne s'assoit pas sur sa certitude, sur les informations déjà acquises, sur un savoir donné ou hérité, n'est-ce pas ? Qu'on s'est donné à soi-même. Donc le poète est en perpétuel, je le disais tout à l'heure à la librairie, est en perpétuel mouvement. Sa conscience est un mouvement perpétuel. Moi, je dirais qu'il y a une phrase qui définirait la position du poète. Je ne me le tiens pas pour dit. Il ne se tient rien pour dit. Et donc, devant chaque chose, il cherche le train caché derrière le train, l'arbre derrière l'arbre, etc. Et je crois que c'est ça, ce regard du poète, que nous, encore une fois, nous en avons tous, je dirais, le génie. Sauf que absolument tout, les morales, les religions, les idéologies, tout ce qui constitue des corsets de notre compréhension du monde, qui permettent aussi, je ne suis pas contre tout ça, mais je veux dire, tout ça immobilise notre compréhension du monde, parce que ça entre dans des formes élaborées et qui se donnent comme système. Un système est clos, par définition, pour qu'il soit équilibré. La poésie est anti-système. Et donc, c'est pour ça que je parlais d'une certaine anarchie ou libertaire dans le regard du poète. C'est-à-dire qu'il ne se soumet à aucune injonction. Aucune injonction de bienséance, de morale, d'idéologie, etc. Voilà pourquoi les poètes incarnent dans toute l'histoire de l'humanité, partout, la parole libre. La langue qui ne s'interdit rien. Et qui récuse tout enfermement du sens dans des injonctions supérieures.
C'est la vraie liberté.
C'est la vraie liberté. C'est la seule vraie liberté. C'est ce que Rimbaud appelait, parce que comme on n'écoute pas les poètes, alors les poètes parfois ils exagèrent pour faire entendre ce qu'ils veulent dire, et Rimbaud appelait ça la liberté libre. Ben oui, parce qu'on depuis le temps qu'on dit que les poètes, ils rappellent qu'eux, ils nous proposent une liberté du regard, de renouer avec la liberté qui est en nous, le sauvage dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire celui qui récuse toutes les injonctions de sens préétablies, qui sont pensées, prépensées, et qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas. Voilà. Mais je pense que le poète, il s'est donné, lui, parce que simplement je sais pas, ça j'ai écrit un petit essai là-dessus pour savoir d'où ça vient, pourquoi il y en a qui font agir ça en eux et pas d'autres. Alors tout le monde pourrait, mais il se donne en tout cas, lui, comme chemin d'être toujours dans cette remise en cause permanente. Et le poème est à chaque fois une incongruité. Il commence une incongruité, c'est-à-dire que ça sort de l'ordinaire. Et c'est volontairement sortir de l'ordinaire. C'est pour ça que le poète est toujours dérangeant, puisqu'on aime tellement l'ordinaire. parce que dans l'ordinaire, la prise d'information suffit. C'est-à-dire, la première chose que fait le poète, il sort de l'ordinaire de la langue. Puisque l'intuition du poète, c'est celle que j'ai essayé de décrire tout à l'heure, c'est l'intuition du premier homme qui devient poète, ou de la première femme qui devient poète, le premier humain qui devient poète, c'est que la langue enferme. La langue, comme tout le monde parle, enferme la compréhension du réel, puisqu'elle porte la représentation du réel partagée par tous. Le langage, c'est le partage de représentation du réel. Et donc, il dit, mais la langue ordinaire, pour qu'elle soit transmissible et partageable, elle se réduit, le concept, etc. Et donc, elle enferme le réel. Donc, le poète, il dit, ben, moi, je subvertis la langue pour subvertir les représentations du réel. Justement, pour que le réel ne soit pas réduit dans la langue, qui nous sert à nous tous de partage du réel, eh oui, ne soit pas réduit à sa surface, à ses éléments consensuellement reconnus. Et c'est en ça que la poésie est révolutionnaire d'emblée, puisqu'elle elle prend un parti complètement insupportable et asocial d'une certaine façon, puisque le langage est ce qui crée société, puisqu'on se comprend par le langage et qu'on agit ensemble par le langage. Qu'on se préserve, qu'on a des projets sociaux, etc. C'est un langage univoque qui s'entend, etc. Et donc la poésie est asociale, puisque elle récuse ça. Elle récuse la logique d'une langue monosémique et on va dire, agissante. Quoi. Et c'est-à-dire parce qu'elle elle revendique, pour le principe que j'ai dit, en disant, puisque la langue que nous utilisons tous, la langue commune, enferme le réel dans des représentations consensuelles, conventionnelles, etc., alors, si on veut aller à une vérité du réel, il faut échapper à ça. Donc, on fait éclater la langue du langage. C'est évident. Par exemple, la première chose qu'on fait, c'est qu'on change le rythme de la langue. On fait de la langue une étrangeté. Et changer le rythme de la langue, parce que c'est le fondement de la poésie, de toute poésie. Du chant, mais la poésie et le chant, c'est la même chose, à l'origine du monde, hein, ce qu'on en sait. Donc, qu'est-ce que c'est que le chant ? C'est simplement remettre, c'est changer le rythme, c'est donner un rythme qui n'est pas le rythme attendu. Ce qu'on appelle le rythme, c'est la sonction. Et cette sonction, moi je dis, c'est le souffle et c'est le battement du cœur. En fait, dès que la langue que nous parlons, elle est liée au mouvement de la vie, on ne parle pas pareil quand on marche, quand on court, quand on est assis. Ça veut bien dire que le rythme est lié à notre corps. Et le poète fait en sorte que le rythme soit lié ici à l'émeute du corps et de la pensée et du sentiment, à l'émeute de soi. Et donc la langue, il y a une émeute dans la langue. La langue est émue, mais émue pas au sens sentimental. Elle est bougée de l'intérieur. C'est ce qu'on appelle le rythme. Et après, vous avez l'infinité des rythmes possibles que la musique investit. En inventant des rythmes inattendus, comme le jazz, on n'a jamais fini d'inventer des rythmes. Le rap invente un rythme. Ou en tout cas, met à jour un rythme latent et possible. Donc la poésie est fondée là-dessus. D'abord, sur ce rythme, c'est-à-dire tout d'un coup, un souffle qui revient dans la langue. C'est-à-dire une langue qui reprend corps. Une langue qui est rapatriée à la vie première. À la vie agie, à la vie éprouvée, d'accord, pas à la vie fantasmée dans une chimère, dans un fantasme, etc. Et donc, c'est pour ça que la poésie touche tout le monde, parce que ce qu'on entend d'abord, c'est le battement du cœur et le souffle, la parole. Une langue sans souffle, ce n'est plus une parole, c'est un discours. C'est tous les politiques, c'est le discours du prof, c'est un discours. C'est une langue sans corps. Une langue sans sang, une langue sans le battement du cœur. Et dès que la langue est émue, bougée de l'intérieur, parce qu'elle est reliée profondément au mouvement de la vie, je reviens au mouvement, à la pulsation de la vie, alors la langue tout d'un coup prend rythme. Et dès qu'elle prend rythme, vous voyez bien qu'elle déborde de la syntaxe ordinaire, du rythme conventionnel d'une langue, etc. Tout d'un coup, elle est étrange. Mais ça a un bénéfice immense. C'est que dès que la langue est étrange, se fait étrangère à notre oreille, on l'écoute. Puisque quand elle est normale, on ne l'écoute pas. On ne l'écoute pas parce qu'on n'a pas besoin de l'écouter, puisqu'elle donne une information qu'on récupère tout de suite. Si je dis va prendre le train, ouvre la fenêtre, pas besoin d'écouter la langue. C'est une vitre à travers laquelle on regarde. Et mais par exemple, dès que je fais perturbation, tout le monde écoute. C'est le principe de la poésie. Et donc la poésie réinstitue chez nous une écoute perdue. L'attention dont je parlais. Voilà pour moi profondément l'importance de la poésie, la nécessité de la poésie pour nous tous. Parce qu'elle nous, on va dire qu'elle nous rapatrie, je dis souvent ça, tu parlais des origines. En fin de cas, elle nous rééduque quelque chose, à des talents humains que nous avons perdus, abîmés, atrophiés. La capacité de l'écoute et de l'attention, la gourmandise de l'autre, c'est-à-dire de ce qui n'est pas moi, de ce qui est en face, de ce qui est à côté, de ce qui est ailleurs, de ce qui... et de l'autre en moi-même. Parce que quand je parle de l'autre, je parle d'autre dehors, et tout de suite je prends conscience que j'ai un autre en moi-même. Je ne peux avoir conscience de l'autre en moi-même que si je m'arrête sur moi-même, si je fais Charles Julliet. Et alors là, je n'arrête pas de me battre avec l'autre en moi-même, et de découvrir mille autres en moi-même, et de découvrir au bout du compte l'autre que je dois être. Mais deviens ce que tu dois être. C'est Nietzsche. Deviens ce que tu es, plutôt. Donc, la question de la poésie est cruciale, essentielle. Si on parle de soin, je dis que la poésie prend soin de tout ce que je suis en train de parler, alors que rien d'autre ne prend ça en charge. Enfin, la poésie, la peinture, l'art, quand il a cette exigence-là. Puisque j'ai toujours dit, et je le redis, je l'ai dit tout à l'heure et je le redis ici, il y a malheureusement une pente fatale de l'humain à éviter l'effort. Ce que je suis en train de définir demande un effort. Un effort d'arrachement. D'arrachement au confort. C'est sûr. La poésie demande un effort. Et l'attitude poétique demande un effort d'arrachement. Un effort d'anticonformisme. Donc, on peut très bien détourner l'art, la poésie. Mais la poésie est plus difficilement détournable, mais encore. On peut très bien détourner ce que représente l'art et la poésie, qui est d'abord une subversion, je l'ai dit. D'abord une contestation du regard habituel, des représentations figées, etc. On pourrait très bien le détourner en divertissement. Se servir des moyens de l'art pour confirmer, au fond, des stéréotypes de représentation et de compréhension des choses. C'est quand l'art devient non pas une source de questionnement intérieur, de questionnement profond, mais quand la poésie est... ou l'art, en général, je vais dire comme ça, quand il cherche le contraire, la stupéfaction. C'est-à-dire non pas l'étonnement, mais la stupéfaction qui immobilise la pensée et la conscience. Qui fait qu'on est simplement bouche bée devant les normes. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est un arrêt de la conscience, ce n'est pas une activation de la conscience. Les grands phénomènes, les grands... Jeff Koons, par exemple, pour moi. C'est l'anti-art par définition, même s'il utilise les moyens de l'art. Il utilise les moyens de l'art, c'est sûr. Mais l'ennemi blanche à Paris, pour moi, ça utilise les moyens de l'art et c'est snob. C'est-à-dire pourquoi je dis ça? Je veux dire parce que ce qu'il nous propose, c'est du spectaculaire. C'est-à-dire ce qui en met plein la vue. Mais Georges Didier Huberman, un des grands penseurs de ce temps, qu'il faudrait que vous invitiez peut-être. Georges Didier Huberman, il dit ceci, il dit en mettre plein la vue, c'est exactement le contraire de donner à voir. Aujourd'hui, on est dans la surenchère du gros et du grotesque, de l'immense, de l'énorme, etc. Parce que ça, nous avons tous un goût pour le monstre, le monstrueux. Donc ce qui est monstre, c'est-à-dire ce qui est énorme, après, mais dans ses formes, n'est-ce pas? Alors ça nous, on a une sorte d'appétit de ça. L'appétit du monstre de la foire, hein. Pareil. Mais c'est sûr que ça procure un plaisir. Moi, un feu d'artifice, on fait oh. Et moi, j'ai du plaisir comme tout le monde. Hein. Même un son de lumière peut être très beau. Hein. Les lumières, la fête des lumières ici, ça peut être très beau. Très beau au sens, c'est pas tant, ça, mais ça fait pas avancer d'un millimètre le schlimbic, c'est-à-dire notre prise de conscience des choses et du monde. Ça satisfait un appétit d'énorme. C'est tout. Mais moi, c'est pas ça pour moi, l'art, c'est pas satisfaire un appétit d'énorme. C'est peut-être même satisfaire un appétit de l'infime qu'on n'a pas. Ou faire naître l'appétit de l'infime. L'appétit de l'invu, de l'impensé, de l'insenti, et de le faire apparaître. C'est tout le contraire, au fond. L'art est très très. Là, il faudrait des assemblées comme la vôtre. Pourquoi c'est important des assemblées comme la vôtre? Parce que, regardez, plus on est proche, plus. J'écris dans un poème du livre que je suis, c'est pour ça que ça vient de ma tête, d'un poème du livre que je viens de finir, là, et ça, plus la parole s'éloigne de la bouche, plus elle meurt, quoi, grosso modo. C'est, C'est-à-dire, oui, et par exemple la parole des micros, n'est-ce pas, etc. La parole vivante, c'est celle qui est tout proche. C'est pour ça que je dis que la plus belle parole, c'est le baiser. Et quand on parle à quelqu'un qu'on aime, on lui parle à l'oreille. On embrasse son oreille, quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire? La plus belle des paroles, c'est le poème murmuré à l'oreille. Et donc, et je crois profondément à ce que je dis là. Hein. Plus la parole s'éloigne de nous, et donc c'est le cas aujourd'hui des 9 dixièmes des paroles, puisqu'elles ont des véhicules. L'origine, elle est perdue. L'origine des paroles, de ce qui se dit. D'où ça vient, ce qui est sur l'écran, ce qui est même à la télé, on ne sait pas d'où ça vient. C'est une figure, ce qui, quelqu'un qui parle à la télé, qui fait des informations, ou à la radio, c'est pas une personne. On ne les connaît pas. On ne sait pas si elle a mal au pied, qu'elle me taille. Moi, le Pujada, la première fois que j'ai vu, pour de vrai, j'ai vu comme c'était un nain. Alors qu'à la télé, il est en majesté, vous croyez qu'il fait 1m90, quoi. Donc, non, mais c'est pour vous dire que là, c'est très important l'origine de la parole. Or, la poésie, donc, nous ramène à l'origine de ça.
On la perd, en fait.
Vous voyez, bon, vous voyez comment, quand on tire un fil, on en tire plein. Et donc, moi, ce dont je voudrais parler pour continuer sur les questions, c'est y revenir autrement, disons, parce que j'espère répondre en partie en faisant des digressions, des circonvolutions. C'est de dire peut-être que quand on parle de soins, il faut faire. C'est pas à vos médecins qui sont là que je dirais, il faut faire d'abord un diagnostic. Et moi je dis que je fais pour ma part un diagnostic qui est la grande souffrance générale de l'âme humaine aujourd'hui. Je dis âme parce que c'est un mot qui a été, comme le mot beauté, comme le mot bonté, comme le mot amour, tout ça a été capté par des idéologies. Les religions sont des idéologies. Rien à dire, chacun a le droit d'employer les mots comme il veut. Mais du coup, ils ont été figés dans des sens qui sont communément admis. Et si vous voulez, quand je parle de l'amour, moi, je lui donne, on en a parlé tout à l'heure, je lui donne une autre acception, un autre sens que le mot de la chanson d'amour, quoi. Voilà, hein. Je t'aimerai toujours, mon amour. Hein. On est bien d'accord. Et que derrière le mot amour, je mets beaucoup d'autres choses aussi que la simple relation interindividuelle entre humains. Bon, donc, moi, ce que je dis, c'est qu'il y a une grande souffrance. Et cette souffrance, je ne suis pas un médecin, mais je l'éprouve moi-même. Quelle est la souffrance de nous tous aujourd'hui? Eh bien, je pense qu'elle a plusieurs raisons, plusieurs formes, plusieurs causes, je ne sais pas comment dire. Et plusieurs formes, plusieurs... je crois que nous souffrons d'abord d'un manque d'être, ça c'est sûr. Et là, c'est très très très, très facile... c'est la fameuse question de l'être et de l'avoir. Moi, je dis que depuis toujours, les sociétés sont fondées sur le principe de l'avoir. C'est l'avoir qui fonde une société, un terrain, une terre déjà, identifiée. C'est une terre qu'on décide sienne. Oui, quand un peuple nomade s'arrête, il dit c'est à moi. Donc c'est une première prise de possession. Et tout ce qui s'ensuit, n'est-ce pas ? Mon bétail, etc., etc. Et l'adjectif possessif qui définit l'individu. Cette logique-là est première, ça fonde une société. Les premières sociétés, si on relit Lévi-Strauss, etc., elles sont fondées sur plus que des appartenances, des possessions. Des possessions collectives, par contrat collectif, ou explicite ou implicite. On est d'accord ? Donc, moi, c'est mon point de vue. Même à deux ou à trois, on se fonde comme groupe sur une possession. Si on est dans la logique qui domine depuis toujours, on n'existe que parce qu'on possède. D'accord ? Et ça, c'est une des plus grandes impasses de l'humanité. Aujourd'hui, la logique de l'avoir, elle domine tout. Là, je dis une évidence. L'idéologie marchande, le libéralisme économique, l'obsession du fric, c'est le 440 qui est le totem, qui a remplacé Dieu. On est d'accord ? Ça organise toute notre vie. Donc, on n'est pas ici, vous êtes tous des gens qui avaient beaucoup vu et réfléchi. Donc, vous savez bien que toute notre vie, dans ses moindres détails, y compris dans l'intime, est régie par cette loi-là. Parce qu'il découle de cette loi de prééminence de l'avoir. Bon, et Et je dis, moi, que depuis toujours, chaque individu, son aspiration, son désir, le désir, c'est d'avoir ce qu'on n'a pas, son désir, c'est d'être plus. On va me dire, bah, on est ou on n'est pas. Non, c'est pas vrai. On peut être plus ou moins. Et nous sommes de moins en moins. Chacun d'entre nous se sent de moins en moins être. Et donc, il y a une aspiration à plus d'être. Et qu'est-ce que c'est qu'être plus ? Ben c'est s'augmenter de sens. Plus on réduit notre sens à des rôles, à des fonctions, à des âges, à des catégories, à des communautés, à des croyances, vous identifiez, plus moins vous êtes, puisque vous êtes enfermé dans des apparences. Et ce ne sont que des apparences. Ce n'est pas votre être profond. Le fait que vous veniez au Letno Café, ou que vous fassiez du football, ou je sais pas quoi, ou que vous regardiez Scorsese, c'est des éléments de sens, mais ce n'est pas tout votre sens. Et je dis que nous, la logique contre laquelle on se bat tous, et depuis toujours, la logique qui fait que vivre en société, ça réduit notre capacité à être, pleinement, forcément. Puisque pour être pleinement, il faut l'être de façon anarchique. Donc c'est asocial. L'absolu dont rêvent les poètes. Rimbaud, Novalis, ou tous les poètes parlent de l'absolu, presque tous, à un moment. L'absolu de l'amour, l'absolu de la vie, etc. C'est un absolu complètement libertaire. Les poètes sont toujours considérés comme ça. Ben parce que c'est l'absolu de la vie qu'ils mettent en avant. Mais on ne peut pas vivre un absolu de la vie dans une société qui veut qu'une vie relative. Donc, pour qui la relativité est la condition de sa survie ? Vous me suivez ou pas ? Si nous sommes tous des absolus de la vie, si nous sommes tous des Van Gogh, des Giacometti, des Mozart, comment on vit ? Et pourtant, eux, ils nous montrent le chemin, on les aime tant, ils nous reconstituent tant, ils nous guérissent tant, parce qu'ils sont l'expression exactement de ce que nous voudrions être, de cette plénitude d'être qui nous manque tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, la vie, c'est un combat pour être. Et moi, je dis que la nécessité de nous inscrire dans un schéma social, et c'est une contradiction qu'on ne résoudra jamais, et nous oblige à relativiser notre désir d'absolu. C'est la contradiction la plus violente. Alors, la poésie est simplement le rappel constant que ce qui est le sens de la vie, c'est ce plus d'être. C'est de travailler à être davantage. Et être davantage, ça veut dire être plus pleinement présent à soi, et aux choses, et au monde. Et être en pleine conscience, on dit aujourd'hui, il y a des trucs, mais on n'a pas attendu des trucs de pleine conscience, les poètes depuis toujours parlent de la pleine conscience. Moi, je ne lis des poèmes que ça, puisque les poètes, justement, chaque poème est un acte de pleine conscience. Chaque poème élargit, si c'est pas ça la pleine conscience, élargit notre compréhension et notre sensation de ce qui est en face de nous. C'est ça la pleine conscience. Eh bien, les poètes font ça depuis toujours. Si je dis des bouts de poèmes, et je peux vous dire n'importe quel bout de poème, n'importe où, quand je faisais le printemps des poètes, on allait sur la terrasse de bistrot, on disait aux gens qui étaient en train de boire des bières et qui parlaient du PSG ou de je sais pas quoi, alors on arrive, on les regarde, on leur dit un poème. Un vers. Et vous faites ça n'importe où, vous faites l'effraction d'un vers n'importe où, ça crée immédiatement, c'est un précipité de silence. Les gens se taisent. Ça crée un apnée, ça crée cette bulle dont je parlais tout à l'heure. Quelque chose dans l'espace-temps change, n'est-ce pas ? Et parce qu'on est dans un autre ordre, n'est-ce pas ? Et quelque chose comme très lointainement, le diapason d'un absolu revient. Parce que le poème fait immédiatement entendre ça. N'importe quel poème change l'atmosphère. Et si je dis un poème à quelqu'un, vous voyez à quel niveau je situe tout d'un coup le rapport ? Au niveau de l'être, enfin de l'aspiration à être. Je dis là où ça soigne, parce que là je crois que ça soigne, et la poésie soigne, depuis toujours elle cherche à soigner ça, elle soigne, pour autant que ça puisse se soigner, notre solitude radicale et fondamentale. Puisque par le poème, je parle vraiment. Vous voyez, je parle de parole et je dis le mot parler. D'habitude, on discourt, la poésie parle. Parce que c'est près de la bouche, près du corps, près du cœur et inscrite dans l'expérience. C'est ce que disait Rilke, Rainer Maria Rilke. Les poèmes ne sont pas des sentiments, ce sont des expériences. L'expérience de la vie, quoi. Si je dis à qui que ce soit un poème, quel que soit son âge, sa culture, ses diplômes, si je dis un poème, que ce soit un poème de Mahmoud Darwish, de Ronsard, ou peu importe, c'est là où ça se passe. Et tout de suite, quelque chose fait émeute. Vous voyez ? Je vais quelque part et au lieu de dire bonjour, comment ça va, ou tiens, vous êtes en train de boire une bière, je dis il n'aurait fallu qu'un instant de plus pour que la mort vienne. Mais une main nue alors est venue qui a pris la mienne. Faites ça.
Oui, ça c'est sûr que. Oui, c'est sûr.
Mais je peux dire aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, à la place du ciel, je vais voir quelqu'un, je dis à la place du ciel, je mettrai ton visage. Les oiseaux ne seront même pas. Même silence, hein. C'est parce que là où il y avait le poème d'Aragon, il y a la mort, mais même s'il n'y a pas la mort. Hein. Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches, et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous. Combien de fois j'ai dit ce poème ? Quand vous dites ça n'importe où, même à des gamins de 15 ans avec la casquette comme ça et qui s'intéressent qu'au PSG, tu leur dites ça, ils se taisent. Hein. Je vous jure, je l'ai expérimenté. Je suis allé dans les. Je peux le dire, ça peut être enregistré, je l'ai fait. Je ne dis pas ce que je. C'est pas un rêve. Parce que on croit souvent que ce que je dis, c'est des rêveries, c'est l'enthousiasme. Mais non, moi j'ai expérimenté, je suis allé dans des classes, comme on dit, entre guillemets, difficiles, ou pas plus difficiles que l'autre, elles n'ont pas les mêmes codes, c'est tout. Mais la poésie, ça marche avec tout le monde. C'est-à-dire, quand je dis ça marche avec tout le monde, c'est une affreuse expression qui conviendrait à un publicitaire, donc ça ne me plaît pas. Mais je veux dire, la poésie consonne à tout le monde. Et tout le monde est remercie. Presque toujours, moi j'ai travaillé avec plein de gens pendant les poètes, on a suscité ça, comme les gens ne vont pas la poésie à cause de toutes les malentendus, etc. Alors on organisait des manières d'aller vers les gens avec des poèmes. Moi, tous les échos que j'ai eus de jeunes comédiens, de gens qui faisaient le printemps des poètes à droite, à gauche, presque toujours ils me disent, les gens nous remercient. Les gens nous remercient. Et il y a toujours un grincheux qui, dès qu'il entend le début d'un poème, peut foutre le camp. Moi je dis d'ailleurs, j'ai fait l'hypothèse que je le fais dans le petit éloge de la poésie, ceux qui foutent le camp, qui disent la poésie au long, dès qu'ils ont une réaction violente dans la poésie, c'est qu'ils ont tout à fait compris. Ils ont tout à fait compris que la poésie leur demandait justement cet acte d'attention et de conscience dont ils ne veulent pas, dont nous ne voulons pas. Parce que nous sommes paresseux, fatigués, et tout nous fatigue. Et que l'acte de conscience, c'est un courage. L'acte de conscience, c'est un courage. Être humain, c'est un courage. Moi, je crois ça. Être humain, c'est un courage. Et ce courage. Et je dis que la poésie est ce courage-là. C'est l'expression de ce courage-là. Simplement le courage de reprendre pied dans notre humanité. D'ailleurs, de nous faire à nouveau pleinement présents à ce qui compte. Complètement ouverts à l'autre dans sa multiplicité et donc dans son inconnu. René Char, comment vivre sans inconnu devant soi ? Sauf qu'on vit. 99% de la population ne cherche qu'à vivre qu'avec du connu devant soi. Sinon, Darmanin n'aurait pas autant de succès. Vous voyez les conséquences de ce que je dis. C'est pas qu'une boutade. Je veux dire qu'on voudrait tous être avec du connu. Parce que dans le connu, pas de risque. Des gens connus, des religions connues. Voilà pourquoi le communautarisme. L'enfermement dans le connu. Très confortable, reposant. Alors que la vie, c'est la vie. La vie, c'est l'inconnu perpétuel. Puisque c'est un mouvement, l'instant d'après, vous savez pas ce qui sera. Nous avons tous ceci en commun, de pouvoir mourir à chaque instant, disait Christian Bobin.
Jean Cocteau a dit une chose très belle sur la poésie. La poésie est une langue à part, que seuls les poètes peuvent parler sans crainte d'être entendus, puisque les peuples ont coutume de prendre pour cette langue une certaine manière d'employer la leur.
Waouh.
Mais il y a beaucoup d'humour aussi. Il y a des très belles choses déjà, Cocteau, sur la poésie. Enfin, vous voyez, moi, donc la question, elle est je vous disais que je m'en sentais bien parmi vous. Parce que les questions que vous posez, c'est des questions fondamentales. En fait, moi, je pense que, parlant de médecine, si on revient à la médecine, et à ce que je disais tout à l'heure, la souffrance, les symptômes physiques, on sait très bien, moi je ne suis pas un spécialiste, mais qu'il y a de telles relations entre le soma et le psycho, etc. Mais je crois qu'il y a cette grande souffrance en nous, de ce manque d'être un vide en nous. Un vide. On est plein de choses, on est plein, on vit dans un trop-plein. Mais on est plein d'une langue qui ne parle pas. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, on est traversé d'une langue qui ne dit que la répétition du même, le réel immédiat, le réel vu, l'évidence. L'évidence, c'est-à-dire ce qu'on voit d'abord, videré, devant. Et donc, on nous bassine à nous répéter ce qu'on sait déjà. Et une bonne partie de l'art est détournée à ces fins-là. Toutes les séries télé, etc., qui sont faites avec du talent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de talent, qu'il n'y a pas de bons comédiens, que c'est pas bien fait. Mais la finalité de ça, c'est de nous ramener aux évidences, aux stéréotypes, aux déjà pensés, déjà conçus, déjà des scripts d'existence, déjà connus. On les retrouve toujours à travers. Et ce qui dérange, c'est dès que ça a une dimension poétique, c'est que d'un coup, on est dans une incertitude du sens. Eh oui. Alors, on est chez Scorsese, on est chez Fellini, on est chez... voilà. Quand le cinéma, par exemple, devient de l'art, ou qu'il reste de l'art, ou Godard, quand on disait on comprend pas vos films. Ben oui, parce qu'il perturbe, lui, le code de représentation visuelle, etc., etc. Vous voyez, donc la question, moi je parle de cette souffrance-là, une souffrance liée à ça, c'est celle dont je parlais à la librairie tout à l'heure, c'est la souffrance, c'est notre langue qui souffre. C'est pour ça que les poètes ont un rôle crucial à jouer aujourd'hui. Je disais que nous avons l'incapacité de dire le réel. Vraiment le réel dans sa complexité, sa nuance et sa multitude de niveaux. On est confronté à une langue aujourd'hui qui ne retient du réel, je dis, que sa représentation conceptuelle. C'est la langue technocratique. Qui, au lieu de dire un banc, dit immobilier urbain. Qui, au lieu de dire une gare, dit un pôle plurimodal. Qui, au lieu de dire une maison de vieux, dit un EHPAD. C'est-à-dire, non pas seulement... c'est pas qu'on remplace un mot par un mot abstrait, là, c'est qu'on remplace un mot par un non-mot. Car l'acrostiche est un non-mot. Un non-mot. L'EHPAD, c'est pas un mot. C'est un acrostiche. Enfin, c'est un sigle. Pardon. Pas exactement d'acrostiche, c'est un sigle. Donc on remplace les mots d'abord par des mots abstraits. Ouais, gare. La gare avec tout ce qu'il y a d'imaginaire et de vécu dans la gare, non ? Alors, on s'est embrassé sur le quai d'une gare, on a pleuré sur le quai d'une gare, on a entendu les trains quand on était enfant, on était émerveillé. C'est le voyage, c'est tout ça, les gares. Il y a un imaginaire construit par toute notre expérience collective, humaine, la palpable, concrète. Je veux dire qu'il y a les bruits dans le mot gare, il y a les odeurs, il y a peut-être l'inquiétude, il y a tout ça dans le mot gare, dans le pôle plurimodal. Il n'y a qu'une fonction. Mais voyez ce déplacement-là qui est général maintenant, pour tout, il dit tout du malheur dont je parle, la souffrance qui est de nous. C'est-à-dire que la langue perd la réelle, la langue perd la proximité qu'elle avait avec nous, où elle était encore parole. Tu dis à quelle heure tu te rends, à quelle heure tu vas au pôle plurimodal, c'est pas, vous voyez ce que je veux dire. Mais et le problème, c'est que cette langue, les mots de tous les jours sont remplacés. D'ailleurs, on n'a plus la crève, on a un syndrome grippal. Moi, j'entends des gens dire j'ai un syndrome grippal. Ben oui, ils entendent ça à la radio tout le temps. Mais c'est pas vrai ? Si, c'est vrai. Et donc ça veut dire que la langue qui était la langue populaire, habituelle, qui portait notre expérience de vie commune, elle est remplacée petit à petit. Donc ça, ce qui joue dans la langue est très politique, est très profond, est très grave. Elle est remplacée par cette pseudo-langue qui n'a pas de mémoire, qui n'a pas d'histoire, qui est une langue complètement artificielle, fabriquée. C'est, par exemple, moi j'ai refusé le mot présentiel. Pourquoi ? J'ai dit, moi, je verrai mes amis en présence du ciel. Ouais, mais c'est une manière de m'insurger contre le présent. Pourquoi inventer ce mot présentiel ? La présence existe. On va se voir en présence. On va être présent, on va être en... Mais en présentiel, c'est-à-dire on fait de l'acte le plus... Tenez ce qu'on fait tout de suite. On en fait un paradigme de logiciel. Présentiel, c'est logiciel. C'est le sérieux du YEL qu'on trouve partout maintenant. Ben oui, différentiel, vous voyez tous les machins. Ça, c'est sérieux. Eh bien, vous voyez comment la substitution dans la langue, la défense de la langue, pour moi, c'est pas tant la défense contre l'anglais, etc. Sauf que c'est cette langue technocratique qui bouffe notre langue et qui bouffe et tout ce qui joue dans la langue de représentation du monde, non ? Et d'injonction subliminale ou indirecte à se comporter en fonction de la langue. Parce que ce type de langage, c'est pas pareil de se retrouver tous ensemble autour d'une table comme on fait ici, ou être en présentiel. Mais vous voyez ce que ça veut dire ? C'est pas le même comportement qui est induit. Et pas le même de type de personne. Vous n'êtes pas considéré pareil si on dit, tiens, on se verra en présentiel, ou si on dit, tiens, on va boire un café au bistrot. Quand c'est que je te vois ? Quand c'est que je te vois ? Non, non. Vous voyez, c'est complètement différent. Et ce déplacement est très, très grave. Et quand je parle de souffrance, je parle de cette souffrance-là, parce que nous le sentons, ça. Nous sentons comment le langage gouverne nos vies, induit des comportements, et que ça nous prive de la vie. Et ça nous prive du réel. Ça nous prive de l'humain. Ça nous prive de l'humain, de la coprésence humaine. C'est-à-dire la présence à l'autre. Comme on fait ici, au corps à corps, non ? D'ailleurs, Hofmannsthal disait, l'esprit déploie sa plus grande force corps à corps avec le sensible. C'est trop trop beau cette image. Et c'est une définition de la poésie. La poésie, elle pense, je l'ai dit. Hein ? Mais c'est l'esprit aussi. Mais c'est corps à corps avec le sensible. Au fond, qu'est-ce qu'on cherche à nommer ? Une pratique médicale qui serait corps à corps avec le sensible. Une pensée, un esprit, une pensée, qui serait corps à corps avec le sensible. Et ce qui se joue ici, c'est ça. C'est une pensée corps à corps avec le sensible. Parce qu'on se voit, on se parle, on s'écoute, on respire. Moi, je parle trop, enfin, tu vois, mais je tousse, hein, d'accord ? Et là, c'est vivant, quoi. Et donc, ma profonde conviction, c'est qu'on souffre. Là, il y a une souffrance qu'on peut nommer. Comment on nous vole le réel en nous volant le langage qui le nomme, en réduisant le langage qui le nomme, en l'enfermant dans des modalités qui sont des modalités froides et abstraites. C'est-à-dire que même des choses les plus ordinaires de la vie, les plus courantes, je veux dire, ordinaires au sens de l'ordre du vivant, des plus simples, elles sont déplacées dans un discours technocratique qui nous fait rentrer dans un schéma. Et on perd la singularité de l'expérience. Parce que je parlais des discours au moment de la Saint-Valentin, des sexologues, des ethnologues, des sociologues, des psychologues et tous les zoologues du monde qui parlent de l'amour. Et ils en parlent dans un discours, dans une langue. Ils peuvent avoir des vertus, hein. Je ne dis pas des vertus de pédagogue, ils peuvent dire des choses intelligentes, c'est pas ça ce que je veux dire, je mets en cause le principe même. Ils parlent dans une langue qui fait que l'expérience est enfermée dans des modes et des schémas, dans des modes conceptuels et des schémas. Or, aucun amour ne se vit dans des modes et des schémas, aucun. Qu'on se trouve ensemble entre spécialistes à utiliser un langage commun qui serait un langage conceptuel pour réfléchir, oui. C'est le propre de la pensée discursive, la pensée qui surplombe et qui essaie de comprendre le monde. C'est pour ça qu'il y a des sciences. Mais si on parle de la vie, vraiment, on ne parle pas de la vie, là. C'est le problème de l'université, qui est prisonnière de son savoir. Eh oui, c'est ce que disait Nietzsche, d'ailleurs. Il y a beaucoup... mais c'est un paradoxe. On a besoin de la science, on a besoin du savoir, on a besoin de la vérité scientifique, sauf que si elle perd, et c'est ça encore une des malheurs de nos temps, si elle s'enferme elle aussi dans le prestige d'un savoir clos entre pairs, alors à ce moment-là, elle perd le réel. Et surtout, la langue qu'elle utilise perd le réel. Et donc, on ne les croit plus, le problème de ces temps derniers.
Je suis passé un temps pour les questions.
Oui, non, oui, mais je peux me taire, hein, parce que...
Non, mais parce que je suis tout à fait d'accord là avec ce qui est dit, mais je pense aussi à un écrivain, je vais me souvenir le nom, qui disait justement que l'expérience excédant toujours les mots, ce qu'on peut en dire, c'était ce qu'il avait incité à écrire et incité à penser au-delà, justement, parce qu'il n'arrivait pas à exprimer ce qu'il voulait. Donc il y a aussi cette possibilité qui nous est offerte, vu que le langage, on en a conscience, ne peut pas traduire entièrement ce que je ressens. Donc je vais m'y coltiner à essayer. Et donc par là, je vais peut-être aider d'autres aussi, parce que j'ai peut-être un peu pataugé, mais je veux dire, je vais avoir quelque chose qui est recherche.
Complètement d'accord. Voilà. C'est pour ça
donc,
que.
Y a ce côté-là si on, qui
après, il est... y a une question politique. Vraiment fondamentalement politique. Est-ce qu'on considère que c'est le désir d'un individu, très bien, ou est-ce qu'on considère qu'une société se portera mieux, en parlant encore de santé, voire de corps social, se portera mieux si chaque élément de ceux qui constituent, chaque élément qui constitue la société est lui-même mieux portant, c'est-à-dire est lui-même en conscience. Parce que pour moi, être un humain bien portant, c'est être un humain conscient. Et un humain conscient, c'est-à-dire avec une parole libre et une représentation fine, subtile du réel, qui ne se tient pas pour dit des choses, qui ne s'enferme pas justement dans des diktats, des lois, des représentations closes du réel. Tous les jeunes qui deviennent fanatiques de ceci ou cela, du nazisme ou de l'islamisme, ou je ne sais pas quoi, déisme, parce qu'ils ont des réponses toutes faites, etc. Donc c'est l'anticonscience, hein, je le disais tout à l'heure. Et donc, Victor Klemperer, hein, la tyrannie née de la répression de tout questionnement. Donc, si on veut que chacun échappe à la fatalité de l'enfermement dans une langue qui clôt le réel, ça veut dire qu'on peut avoir une volonté sociale et politique de faire en sorte qu'il y ait une éducation populaire. On appelait ça l'éducation populaire, je vais exprès d'employer le terme. C'est-à-dire la volonté politique consciente, là pour le coup, consciente d'elle-même, d'offrir à chacun le moyen de son émancipation individuel au profit d'une émancipation collective, d'incitation justement par là. Voilà pourquoi, dans les pensées progressistes de gauche des années d'après-guerre, issues du Conseil de la Résistance, il y avait le théâtre pour tous, le grand essor de la décentralisation théâtrale, voilà pourquoi il y avait les MJC, voilà pourquoi on a créé les maisons de la culture, Malraux avec les communistes d'ailleurs, et voilà pourquoi il y avait les gens qui allaient avec leur guitare dans les banlieues à l'époque et qu'on s'est moqué d'eux. Voilà pourquoi il y avait des mouvements d'éducation populaire comme les éclaireurs, les scouts, les pionniers, je sais pas quoi. Enfin, on pensait collectivement et politiquement que c'est ce dont vous parlez, ce que vous avez décrit, c'est-à-dire le fait qu'on s'émancipe par l'écriture, ou par la peinture, ou par la danse, ou par le chant, par l'art, qu'on s'émancipe parce qu'on prend conscience de son corps, on prend conscience de son geste, de la valeur d'un geste, de la valeur de n'importe quoi qu'on croyait sans valeur, de la valeur de soi. Tout ça, c'était par la pratique de l'art. Sauf qu'on a tourné le doigt ça très vite. Hein. C'est toujours une vieille lune, ce que je dis là. Moi, je crois que c'était la seule échappée. L'abandon de tout ça,
ça existe toujours.
On en voit les conséquences aujourd'hui. L'abandon de l'éducation populaire. Moi, je suis un homme de ma génération, mais je pense que c'est une idée plus neuve que jamais.
L'idéal villarien, pardon. C'est pas mort.
C'est pas mort.
Ça revient. Ces choses-là ne sont pas mortes.
Non, peut-être. Non, pas complètement. Pas complètement.
Ça n'existe pas. Les MJC, les centres sociaux.
Oui, il y a des jeunes qui se bagarrent dans les banlieues. Il y a des éducateurs. Mais on ne leur donne plus les moyens.
Oui, ça oui.
Je veux dire, je parlais de volonté politique. Je ne dis pas que ça n'existe plus. D'ailleurs, il y a des ateliers d'écriture, comme tu disais, ton prénom, excuse-moi.
Annick.
Oui, Annick, comme disait Annick. Ce que tu disais, c'est définir aussi les enjeux des ateliers d'écriture. Et c'est très bien. Moi, j'en ai mené plein. Et moi, quand je menais des ateliers d'écriture, des ateliers, etc., j'ai dit aux gens, le but, ce n'est pas de faire forcément de vous des écrivains et qu'on le publie. C'est de vous donner cette liberté, cette autorisation à aller plus loin dans l'écriture. Et peut-être que vous... Mais ce n'est pas ça l'enjeu. Parce qu'aussi, on est aujourd'hui dans l'obsession de la réussite et du but à atteindre, la performance, etc. Donc je viens à un atelier, il faut qu'après je sois capable de publier, il faut que je sois publié. Mais non, ce n'est pas ça le truc. C'est l'émancipation, elle n'a pas besoin de ce type d'évaluation. Vous voyez, c'est difficile à faire penser puisqu'on est dans le culte de la vedette, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Tout ça est très lié. Donc moi je dis que c'est une question politique quand même. La question de cette souffrance dont je parle, que j'identifie très clairement à ces questions de la langue qui nous manque, n'est-ce pas, le manque d'être, le sentiment d'être limité, de ne pas être reconnu, représenté dans sa valeur, etc. Et tout ça, moi, je pense que c'est le grand mal de notre temps. Là, il y a une grande maladie du corps social.
Vous ne pensez pas que c'est une robotisation de tout le monde et
oui.
qu'elle est volontaire
ben
Parce
oui.
qu'elle sert, elle sert, elle sert le pouvoir, elle sert le...
Bien sûr. Mais oui, c'est politique.
Un but qui n'est pas le nôtre.
Non, c'est politique. Non. C'est organisé.
Le moyen de lutter contre ça, c'est de revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, au présent. comme le fait l'enfant, comme le fait, c'est-à-dire un atelier d'écriture. On n'est pas là pour écrire bien, on est là pour être bien ensemble, ouais. pour s'exprimer sur des problèmes qui nous touchent tous ou pas, sur des choses qui nous plaisent tous aussi, et puis pour le partage avant tout, et pas pour l'expression, pour le rendu.
C'est tout à fait vrai. D'ailleurs, si on parle de ce que fait Liliane, et ce que vous parliez tout à l'heure, de la présence du lettno, moi je balade beaucoup à travers la France, et même ailleurs, mais beaucoup en France. Partout, il y a des petites cellules comme les vôtres. Partout, il y a des lieux de résistance. Ce que Didier Van appelait les lucioles. Et beaucoup de lucioles, ça éclaire la nuit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire beaucoup des différentes façons de prendre conscience de tout ce que je suis en train de dire, de cette souffrance, et de combattre cette souffrance, déjà en retrouvant l'humain. Parce qu'après, les choses vont de soi. L'attention à l'autre, l'écoute de l'autre, être dans un lieu qui n'est pas formaté comme ici. On a tous besoin de ça. Maintenant, même les bistrots parisiens sont formatés à l'américaine, vous savez. C'est propre partout, dans les gares. Moi qui adorais les bistrots de gare, chez moi, on ne peut plus s'asseoir. C'est des tables effroyables, attachées en plus au sol. Enfin, donc on nous met dans des ersatz de vie. Moi, je préfère un vieux bistrot qui pue que ça. Mais oui. Mais oui, et donc, mais c'est ça, et c'est en tout qu'on substitue à la vie une vie propre, une vie de pharmacie. Oui, je veux dire.
C'est des lieux de résistance, c'est des lieux de résistance, aussi des lieux d'existence.
Ouais. Mais alors, ces lieux de résistance existent, et il y a beaucoup plus de gens qui croient, qui se croient seuls, qui sont pas seuls. Oui, parce que moi, je vais de lieu en lieu et je fais le pointillé, si vous voulez. Vous voyez. Et donc des lieux où, en fait, simplement, quelle que soit la manière, ça signifie ça. C'est pour ça que j'ai dit, moi, je suis à ma place ici. Dès le début, parce que je sais que c'est une manière de résister.
C'est ce qu'ont dit les Gilets jaunes au moment des ronds-points. Ils ont dit que justement, ils s'apercevaient qu'ils n'étaient pas tout seuls.
Oui, mais j'ai parlé de la solitude tout à l'heure, bien sûr. Oui, oui. Et quand je parle de la poésie, mais enfin, ça serait vrai de toute parole. Et peut-être de l'expérience commune à une pièce de théâtre, devant un tableau, etc. Quand on est à deux devant un tableau, ou à trois, ou une œuvre d'art, quelle qu'il soit, il y a quelque chose qui fait que par ça, on est rejoint. On échappe à notre solitude. On n'y échappe jamais complètement, hein. Faut pas se leurrer. On y échappe pour la part qui la rend vivable. C'est tout. Et puis d'abord, le fait de savoir qu'on n'est pas seul à être seul, ben, ça fait du bien. Ce paradoxe-là est magnifique, quoi. Donc, vous voyez, après, moi, je pourrais dire sur la force de la poésie, je pourrais dire, au-delà de tout ce que j'ai dit ici, que le poème... Comme le dit Ilia, en fait, dire un poème à quelqu'un dans un état de détresse, physique ou mentale, l'expérience prouve que effectivement, très souvent, c'est pas une règle absolue, mais très souvent, ça procure un bien-être au sens propre. Très souvent. Très souvent, ça soulage de quelque chose. Et donc, moi, mon hypothèse, c'est ce que disait tout à l'heure Jean-Claude Pirotte, que je citais, qui disait, il y a un poème, il y a un parfum de résurrection. Il y a une telle force de vie dans le poème, c'est la seule langue où on a l'impression qu'on nous parle vraiment. Moi, je peux lire, si je lis Demain dès l'aube, je ne connais pas le vieil Hugo, vous le connaissez, vous, non? Ni sa fille, encore moins. Hein. Et je ne reconnais rien à part l'image. Hugo, ce n'est pas un homme pour moi, c'est une figure. Sauf que si je dis, je sais qu'il dit Demain dès l'aube, à l'heure où Blanchet compagne le tout, je partirai, je sais que tu m'attends. Ça s'adresse à moi. C'est immédiat. Et c'est une parole qui m'est adressée. C'est la force de la poésie. Le poème, il nous parle directement. Parce que, j'ai dit, il est lié à l'expérience de la vie. Il est lié au souffle, il est lié dans sa langue même, au battement du cœur. Et donc, tout d'un coup, ça nous parle, alors que le reste ne nous parle pas. Le reste, on entend, on comprend, hein, mais c'est un discours. Or, ce qui nous parle vraiment, ça demande de l'écoute et de l'attention. Et ça suscite cette écoute et cette attention. Et je crois que c'est ça une des vertus de la poésie qui nous fait du bien, d'une certaine façon. Moi, je disais à mes étudiants le matin, lisez un poème, rien qu'un. Et moi, quand j'arrivais dans ma classe, souvent, je mettais un vers de poème, un seul vers, un aphorisme. Et quand je ne le faisais pas, ils réclamaient. Mais en fait, c'est parce que simplement, ça, dès qu'on met un vers de poème, ça change quelque chose dans le rapport. Immédiatement. Si je dis vous serez une part de la saveur du fruit, ça fait du bien. C'est le René Char, hein. C'est ça. Oh, l'abreuvoir en chevaux suce ses flûtes d'eau. Oh, c'est pas, ça fait du bien. Je veux dire que ça nous ramène à la vie, tout simplement. Parce que c'est curieusement ces phrases absurdes. Toi, la seule, et j'entends les herbes de ton rire. Il est complètement taré, Éluard, les herbes de ton rire. C'est complètement absurde. Si un élève écrit ça, on dit, mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, c'est génial. Parce que tout le monde comprend immédiatement. Un enfant de 8 ans comme un vieux de 90 ans, on dit, toi la seule et j'entends les herbes de ton rire. Même le vieux de 90 ans qui est un vieux de 90 ans qui n'est pas la seule, dis-toi la seule et j'entends les herbes de ton rire, il est heureux. Parce que cette image est claire. Elle est claire, la puissance de vie. C'est lui, il a le génie de l'image. Cette image qui est claire comme ça. Et vous savez, c'est pour ça la poésie a cette fulgurance. Cette fulgurance au sens propre du mot, ça éclaire. Mais ça éclaire, ça ne veut pas dire que ça rend compréhensible. Ça éclaire une chose. Ça éclaire notre conscience de la vie, qui est tombée dans l'obscur. On ne savait pas qu'on vivait. Et tout d'un coup, on nous dit un poème, tiens, on se rend compte qu'on vit.
Moi, j'ai un poème que je ne comprends pas, mais qui me parle à fond. C'est Clown. Clown d'Henri Michaud.
Ah ouais.
Et c'est vraiment...
Vous pouvez le dire?
Non, pas vraiment. Je ne sais pas si je peux le lire. Un jour, bientôt, peut-être. J'arracherai le navire qui tient.
Inventer. redites le début.
Un jour, bientôt, peut-être. J'arracherai.
Ça suffit.
Qui tient mon navire.
Regardez, si vous commencez comme ça, un jour, bientôt, peut-être, j'arracherai. Bon, ça suffit pour une journée.
La fin, c'est à force d'être nul,
oui,
et rat, et risible. Et voilà, c'est magnifique.
Ouais. Et il nous dit des choses horribles, mais en même temps, c'est magnifique. Ouais. C'est, vous voyez, ce paradoxe de la poésie, c'est incroyable. Et donc, oui, je pense que dès que... Quoi qu'il en soit, pour revenir à la question première, quand quelqu'un a une maladie, quelle qu'elle soit, oui, je veux dire physique, évidemment, elle a forcément des retentissements profonds. Et ces retentissements profonds, c'est évidemment une peur de la disparition. Moi, je crois. Même si on n'a qu'un peu mal, il y a toujours ça derrière. Mais cette peur de la disparition, elle est commune à tout le monde. On l'a même en très, très bien portant, on l'a. On la cache, elle est en arrière-plan, mais l'enfant, moi je dis qu'on est avec la peur de mourir. Elle a été avec la peur de mourir. Et que l'enfant le comprend dès le deuxième jour ou le premier jour, presque, je dirais presque la première heure, dès qu'il sort des bras. Il sort du ventre, puis il sort des bras. Et qu'il est mis tout seul dans un. C'est une immense solitude. Vous imaginez? Tout le monde peut comprendre ça. C'est une immense solitude. Et quand il est mis tout seul dans sa chambre, au bout de quelques jours, il n'a même plus la respiration autour de lui ou celle qu'il entendait dans le ventre. Enfin, il est dans une immense solitude. On s'y fait vite, hein, on se fait vite à la solitude. Mais là, on a le sentiment de la perte. Et cette perte, c'est le sentiment de la mort. C'est une mort, déjà. Et donc, moi, je pense qu'on a ça très vite et que ce qu'on fait de sa vie, c'est comment on gère ça. Excusez-moi de le dire de façon un peu simpliste. Qu'est-ce qu'on fait avec la peur première, initiale, originelle? Eh bien, ce qu'il a combat tout de suite, c'est l'émerveillement. C'est l'enfant qui s'ouvre, qui ouvre le regard. C'est tout simplement ça. Ce dont je parlais tout à l'heure, l'attention à tout ce qui apparaît, le grand immense autour. Et c'est un aller-retour sans arrêt. Et la vie, le sentiment de la mort n'est supportable que dans le sentiment inverse d'une vie offerte. Alors, après, moi je n'ai aucune vérité là-dessus, je n'ai pas une pensée là-dessus, je dis exactement comme je ressens les choses. Je pense que la poésie nous rappelle la vie offerte. C'est pour ça qu'elle nous sauve de l'angoisse dont je parle. Et que quand on a une maladie, quelle qu'elle soit, et moi comme d'autres, hein, évidemment, même si c'est une grosse grippe, hein, il y a quelque chose qui fait que on renoue avec cette peur première d'être perdu, perdu pour la vie, perdu pour le monde, perdu pour soi-même, enfin voilà. Et c'est un sentiment qui est le plus naturel, le plus ordinaire, le plus partagé du monde. Et qu'il n'y a que ça. Donc ce qui combat ça, c'est que la main de l'autre, évidemment, c'est-à-dire la, renouer avec la vie. Mais la vie est là, elle est présente. Et donc, parfois, on ne sait pas nous comment faire. Le poème, il fait simplement réentendre l'offre de la vie. La vie est là, la vie est présente. Mmh. Y compris dans un poème triste ou dur. Parce qu'il y a une humanité derrière, il y a une parole. Et donc, ça sauve un peu du labyrinthe dans lequel on est jeté. Un peu. Il ne faut pas non plus crever. Hein. Maintenant, on sait que dans... Vous travaillez, toi tu travailles en soins palliatifs. Mmh. Je sais qu'il y a des endroits, on m'a dit, dans les soins palliatifs où la poésie est utilisée souvent. Mmh. Enfin, utilisée, c'est, le mot n'est pas beau, mais elle est présente. Mmh. Comme la musique, comme. Ouais. Parce que c'est des paroles de vie, de confiance dans la vie.
Je trouve que l'enjeu, c'est comment tout cela, comment l'univers médico-soignant, avec ses normes, ses procédures, est accueillant à ces formes de vie sans vouloir les normaliser. Mmh. Parce qu'en fait, il faut permettre que cette altérité radicale, d'une certaine manière, de l'art, ou de ces formes d'expression d'une vie plus que la vie ordinaire, je trouve qu'il y a là un peu une question, enfin, je ne sais pas comment, sur la tentation de vouloir remettre dans le giron du connu.
Oui. Oui, dans les protocoles.
Si ça reste l'effet de l'être de la personne qui offre quelque chose qu'elle vit dans son rapport à la poésie, si ce n'est pas capté par l'institution, à ce moment-là, ça va certainement.
Mais je repère, en tout cas, il y a là comme une contradiction, comme une tension, parce que pour donner à exister, il peut y avoir cette tentation d'institutionnaliser.
C'est un risque.
Il y a aujourd'hui des diplômes universitaires qui proposent une prescription culturelle, des prescriptions. Vous voyez, moi, j'avoue que je regarde ça avec une espèce d'interrogation.
On rentre dans un autre.
On rentre dans des protocoles.
Le risque, c'est
le contient. Ouais.
Oui, je comprends très bien. Il faut toujours un libre accès à tout ça, évidemment. Mmh. Après, c'est une question de proposition, de suggestion, plutôt que. Je sais pas. Moi, là, je suis complètement incompétent et je dirai rien parce que je dirai que des bêtises. Parce que la seule chose que je peux dire, c'est que ça, parce que j'en ai fait l'expérience, j'en ai eu beaucoup de témoignages, que des gens qui s'intéressent pas du tout à la poésie, pour qui c'est en dehors de leur champ d'interrogation. Ils vont revendiquer la poème à deux moments, j'ai remarqué, cruciaux de l'existence, au moment des mariages, ou des naissances, ou à la mort, à l'enterrement. Combien de fois on lit des poèmes à l'enterrement? Et moi, on m'a demandé l'autorisation de dire parfois, on m'a écrit pour demander l'autorisation de dire un poème à l'enterrement, ou pour un mariage, de lire à l'église ou à la mairie, je ne sais pas quoi. Et donc, c'est très curieux, c'est qu'à ce moment-là, tout d'un coup, on revient à la poésie. Parce qu'on. Alors là, je pense que ça dit beaucoup de la perception de la poésie et de la force de la poésie. Mais dans ces moments de. Quelle est la parole à la hauteur de ces moments de cru du sens, je veux dire.
La poésie a quelque chose d'immortel, finalement.
D'immortel?
Oui.
Ah oui, ça, elle est immortelle. Elle mourra avec l'homme.
Ça rend l'événement immortel aussi, parfois.
Ouais. Oui, peut-être. Enfin, ça lui redonne une dimension, justement, au-delà de la perception ordinaire de la chose. Quoi.
C'est une dimension sacrée.
Pardon ?
C'est une dimension sacrée.
Alors, ça, c'est une autre question. Il y en a qui ont fait des colloques entiers sur plusieurs journées de séminaires ou de colloques sur poésie sacrée. Ça dépend. On peut dire des choses un peu simplement. Sacré, ça veut dire séparé au début, dans la société. Ouais. Hein. C'est la chose un peu... qui a un statut d'exception. Alors c'est dangereux de dire ça, parce qu'à ce moment-là, on veut dire que la poésie serait une part, comme une sorte de lieu où on accéderait qu'avec, après rite initiatique en quelque sorte, ou autorisé, ou ceux qui auraient l'onction divine, tout ça.
Oui, mais dans ce cas-là,
j'évacue ce sens-là, voilà. D'accord. Après, moi je crois qu'il y a dans le sacré, il y a une belle façon de penser le sacré. Enfin, c'est justement ces moments où la vie est intouchable, ou c'est la vie elle-même qui est sacrée, c'est-à-dire qui est la chose à quoi, en dernier ressort, on n'attendra pas, en quelque sorte. Et ce qui est le gardien de la vie, à ce moment-là. Et ça, c'est le sacré. Tout ce qui est, qui dit le prestige de la vie et qui pose la vie comme une valeur absolue pour tous et qui supplante toutes les autres valeurs, qui supplante toutes les autres nécessités, etc., etc. C'est-à-dire que là, on parle d'un sacré de la vie, au sens de intouchable. Et ça, d'une certaine façon, je pense que la poésie dit ça. La poésie porte ce sacré de la vie. Moi, je le crois. Il y en a qui disent chacun pense ce qu'il veut. Moi, je pense, quand je vois la poésie, pas seulement dans la France du XXe siècle ou du XXIe siècle, je regarde, moi, je me passionne pour ça. Donc, depuis toujours, je lis des poètes du monde entier, de toutes les époques. Il y a une poésie dans toutes les cultures, dans toutes les langues, dans les sociétés les plus anciennes, les plus primitives, celles dont on a des traces de l'oralité, etc. Il y a des poètes partout. Donc, c'est un universel et un intemporel. C'est immémorial et c'est universel. Il n'y a pas de communauté humaine sans poète, donc sans poésie, quelle que soit sa forme, qui peut évidemment varier, etc. Sans une parole qui porte au-delà de la parole ordinaire et qui touche à quelque chose d'un sacré de la vie. Donc je dis, c'est un invariant. Et si ça existe, c'est bien, à mon avis, si on voit ça partout, c'est parce que la poésie est un des lieux où se préserve. Ça, je le crois profondément. Un lieu où se préserve la vie, l'absolu de la vie, dont je parlais tout à l'heure. Et quand les gens entendent un poème, ils entendent ça, l'absolu de la vie préservée. La vie existe toujours, elle est là, elle est à disposition. On la perd, on est perdu, on est en manque. Le monde aujourd'hui est inhumain et dans une sorte de folie, de destruction de la vie. Mais lisez un poème. La question, je l'illustre souvent d'une parole péremptoire pour moi, celle de Primo Levi. Primo Levi, qui a écrit Si c'est un homme, déporté à Auschwitz, etc. Vous savez, et qui écrit ce livre Si c'est un homme, un livre absolu que tout le monde devrait avoir lu. Peut-être qu'on n'en sait pas là aujourd'hui si tout le monde le lisait au lycée, au collège, comme ça se fait en Italie d'ailleurs. Si on n'empêche pas l'Italie d'ailleurs. Bref, donc Primo Levi écrit ses syndromes, il raconte l'abjection de Auschwitz, l'inhumanité. Il décrit de la façon dont la plus directe et simple l'abjection de la fabrication de l'inhumain, quoi, ou de la déshumanisation des êtres. Bon, c'est imparable, c'est violent, c'est insupportable, c'est insupportable parce que c'est nous tous qui sommes concernés. Mais c'est au milieu du poème, du livre, le chapitre central qui s'intitule Le chant d'Ulysse. Au milieu de tout ça, il parle de la sélection, il parle des gens qui crèvent sur les chalits, enfin, il raconte tout l'horreur des gaz et tout ça. Et tout d'un coup, il y a un chapitre, Le chant d'Ulysse. Et dans ce chapitre-là, vous voyez bien l'oxymore, la violente contradiction. Tout d'un coup, il raconte qu'il fait une corvée avec son ami français, je ne sais plus comment il l'appelle, enfin peu importe. Et dans le moment de la corvée où ils peuvent être tués à chaque instant, hein, parce que ils n'ont même pas le droit de parler et tout ça, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il dit en italien pour son ami un extrait du chant d'Ulysse de la Divine Comédie de Dante, le plus haut de la poésie pour lui. Eh bien, vous voyez, au pire de l'abandon et de la défaite de l'humain, le seul fait de dire le poème, il reconquiert toute l'humanité perdue. J'ose dire, ça fait s'effondrer toute l'œuvre de désémination et de destruction des nazis. Puisque même au pire, dans la pire situation, l'homme tatoué qui est une bête, qui n'a rien pour manger et qu'on peut tuer d'un instant à l'autre comme on tue une mouche nous, cet homme-là, il est plus grand que son oppresseur. Puisqu'il dit, il dit le poème de Dante, le plus haut de la poésie. Le plus raffiné des chants poétiques, le plus puissant de l'expression humaine. Donc moi, c'est en ça que je dis la poésie, elle porte objection à la déshumanisation du monde, qui est à l'œuvre aujourd'hui. Et donc, le poème Abyssol, il ne nie pas, il n'a pas éteint les chambres à gaz. Hein. Il ne sauve pas, même lui. Il s'en est sorti pour d'autres raisons, c'est pas le poème. Mais le fait de dire le poème, c'est objecter à la chute. Et je pense que j'en parlais avec certains gens, des jeunes notamment, qui sont aujourd'hui désespérés, qui me disent comment, en quoi espérer, etc. Et vous parlez de poésie, etc. Et j'ai dit, mais on ne peut pas céder. Et ne pas céder, c'est pour moi, c'est ne pas renoncer. Et ne pas renoncer, c'est être poète. Le poète ne renoncera jamais à l'humain et à l'absolu de la vie. Et à l'affirmer. Et à l'affirmer. Jusque dans les supplices, comme disait Aragon, celui qui chantait dans les supplices. C'est celui qui dit le poème, c'est Georges Samprin qui nous dit les poèmes aussi dans les contes de tentation. C'est ceux qui. C'est le pianiste qui joue dans les ruines de. Vous voyez ? C'est ça que je veux dire. C'est une force d'objection. Et peut-être que participer à plusieurs, parce que Primo Levi dit ça, on se retrouvait pour entendre des poèmes ou Samprin dit ça. Mais Primo Levi dit, par exemple, les gens se retrouvaient pour entendre des chants yiddish. Alors que les trois quarts, 9/10 ne connaissaient pas le yiddish, ils n'étaient pas tous vus. Et des chants yiddish, c'est magnifique, c'est du poème. Ils ne comprenaient rien, mais ils se retrouvaient pour ça, comme on se retrouve ici. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il y a un moment où on se retrouve autour d'une parole qui est une parole de vie, parce qu'elle suppose, par l'art qu'elle manifeste, l'extrême de l'expression humaine, quoi. Alors quelque chose résiste et regarde le dragon les yeux dans les yeux. Pardon, Jean.
Est-ce que tu pourrais reformuler ce que tu l'as fait à la librairie, ce que tu entends par l'amour, en fait, ce mot amour en perspective avec la poésie,
oui.
Et dans cette problématique que j'ai de le lier aux soins, en fait,
Oui, mais je pense très important de dégager l'amour de toutes ces résonances molles, gentillettes, etc. Hein. Et puis des stéréotypes. Non, est-ce que. D'ailleurs, je ne suis pas le premier à associer l'amour et la poésie. Il y en a beaucoup d'autres qui l'ont fait avant moi, dont Éluard, qui a écrit un recueil entier qui s'intitule L'amour, la poésie. C'est-à-dire qu'on peut carrément superposer d'une certaine façon. On peut les superposer dans la mesure où, effectivement, on définit l'amour comme d'ailleurs le geste poétique, cette manière d'habiter et de s'habiter. Une manière d'être, d'habiter et de s'habiter, comme disait Georges Perrault, ce poète que j'aime beaucoup. Et la poésie, comme l'amour, c'est une manière d'habiter et de s'habiter. C'est-à-dire que c'est une manière d'être, d'habiter et de s'habiter, qui est fondée sur l'appétit de l'autre et de l'inconnu. Le contraire, donc, le contraire du non-amour, qui est la fermeture sur soi, évidemment. Ou l'amour de soi, qui est une mort. Donc, l'amour, ce n'est pour moi, c'est le mot qui nomme tout geste d'ouverture à l'inconnu, avec le risque que ça comporte. Mais donc, c'est le seul geste humain qui soit exact avec la vie, puisque la vie, c'est un mouvement vers le devant, vers l'ouvert. La vie, c'est tout l'ouvert. D'ailleurs, c'était le grand mot de Rainer Maria Rilke, l'ouvert, avec un grand O même. Et la poésie, c'est la tentation permanente de l'ouvert. Sortir de soi. André Chédy disait sortir de son étroite peau. C'est une magnifique chose aussi. C'est-à-dire, il s'agit toujours d'échapper à l'assignation à résidence en soi-même. Mais c'est parce que aller à l'autre, c'est mieux se retrouver soi-même. C'est évident. Et donc, moi j'appelle amour tout geste, toute disposition de l'esprit, toute configuration de l'âme d'un individu qui lui permet d'être dans l'ouvert, qui lui permet d'être dans l'accès au grand extérieur, on va dire, au grand autre, et qui vit cet accès ou ce seuil vers le grand autre comme un désir, comme une chance, tout en comprenant le risque que porte toute part d'inconnu, le risque de la blessure, de la perte, de se perdre, etc., etc. Mais en même temps, je pense que c'est ce qui fait l'humain depuis le début. L'humain qui sort de lui-même, qui sort de son regard par terre et qui se met debout et qui ouvre les yeux et qui regarde le ciel, qui regarde devant lui, ce qui fonde l'humain, c'est l'accès à l'ouvert. L'animal, il est les yeux au sol. L'animal grandit lui-même quand il s'ouvre, n'est-ce pas, quand il se... Pardon.
Non, mais est-ce qu'il ne faut pas déjà avoir pu être ouvert à son, je sais pas comment dire,
hein, à son
intériorité, pour pouvoir s'ouvrir à lui? Est-ce qu'il ne faut pas déjà être, enfin, écouter et être en lien avec, je ne sais pas quoi, alors, je ne sais pas comment dire, hein, il y aurait un être social, je suis Annie Gottmann, voilà, et puis à moi, ce que je suis profond, à mon être intérieur, que je ne connais pas forcément, et pour m'ouvrir à l'autre, est-ce qu'il ne faut pas que je fasse d'abord ce chemin
d'introspection
qui parle en moi, à mon insu même, et pour ensuite aller vers l'autre.
Ce que tu décris, c'est...
On ne va pas à soi que par le biais de l'autre, en fait.
Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il n'y a pas les deux.
Oui, c'est deux.
Ce que tu décris, ce processus, c'est celui de Charles Julliez, qui s'est ouvert à l'autre en désencombrant, comme il disait. En désencombrant, lui, il était enfermé dans son malheur. Il était dans une grave dépression au début et il commence à écrire pour dire cette dépression. Et lui, il est vraiment celui qui se soigne par l'écriture et qui se soigne en tant qu'homme, qui devient homme. Et c'est un art, pour le coup, comme Novalis le dit, devenir humain est un art. Pour lui, ça a été un effort permanent. Et en désencombrant, alors je connais très bien son œuvre, j'ai écrit une grande préface à sa poésie, etc. Donc, effectivement, pour lui, c'est comme s'il était dans un tunnel et qu'il dégageait les pierres les unes après les autres. Vous voyez, qu'il creuse le trou et au bout de très longtemps, des décennies, il voit la lumière. Et il arrive à l'ouvert, et il arrive à l'autre. Et aujourd'hui, c'est un homme réconcilié qui sourit. Il a toujours eu la passion de l'autre, hein, quand même. Mais au début, cette passion ne pouvait pas s'avouer. Il était trop encombré de lui-même. Alors, la question, elle est insoluble. Je pense que c'est un aller-retour permanent. Je pense que on est toujours, quoi qu'il en soit, plus ou moins encombré de soi-même. Plus ou moins. Il y a des êtres moins encombrés que d'autres. Bon, question de chance ou de je sais quoi. Mais moi, j'ai connu des poètes très encombrés d'eux-mêmes et qui écrivaient magnifiques poètes pour l'autre. Le paradoxe ici est là. C'est compliqué. Moi, je dirais que c'est un aller-retour permanent, n'est-ce pas, entre soi et l'extérieur. Et il faut trouver une extériorité en soi-même aussi, un ciel en soi-même, pour le dire autrement. Comment on peut trouver une ouverture en soi-même si on ne voit que du noir, si on est dans un tunnel, dans l'ombre, etc. Effectivement, des êtres... Mais regardez, il n'y a pas de vérité. Moi, je dis une chose, là, j'ai aucun savoir de plus parce que je suis poète. C'est simplement, on voit des gens qui vivent des choses les plus violentes et les plus horribles qui soient, donc qui ont un être fracassé intérieurement et qui sont les plus ouverts et les plus généreux. Et puis des gens qui ont une vie tout à fait équilibrée et saine, qui sont égoïstes comme tout, égocentrés. Donc c'est très... Allez savoir. Allez savoir ce qui fracture la porte d'entrée au monde, quoi. Vous voyez, qu'est-ce qu'il fait?
Et peut-être une façon économique de vivre, et au contraire, aux grandes joies, les grandes souffrances aussi. Les grandes souffrances, c'est les grandes joies. C'est cette façon de m'ouvrir à la vie, quoi.
Moi, j'ai pas de réponse à ça. Et moi, ce que je crois vraiment, c'est que la poésie est un exercice, entre guillemets, exercice, d'accès à l'autre, à l'ouvert. L'autre avec un grand A. La poésie nous ouvre. Toujours, puisque je dis qu'elle est toujours une parole qui donne un sens imprévu à ce dont elle parle. Donc elle ouvre, elle ouvre un extérieur à toute chose, un dehors à toute chose. Et par exemple, il y a une très belle chose, c'est la formule de Michaud, c'est lointain intérieur. Les poètes soit ouvrent un là-bas dans n'importe quelle chose, n'importe quelle chose de son ici porte un là-bas, et le poète, ça c'est Baudelaire, hein, là-bas, hein. Ou creuse à l'intérieur sont dans une sorte d'ouverture intérieure. Qu'est-ce que j'essaie de dire à travers la formule de Michaud, le lointain intérieur. Il y a un lointain en face de nous, il y a un lointain en nous aussi. Au fond, quand on est encombré de soi-même, c'est simplement que ce qu'on est soi-même, quand on regarde, fait obstacle à l'immensité qu'on est soi-même. Il y a une immensité, il y a un cosmos dehors, mais Victor Hugo disait chacun est un monde. nous portons en nous un monde, un cosmos avec des étoiles, des planètes, des étoiles filantes, des, je sais pas, de l'obscurité, des grandes clartés subites. On a tout ça à l'intérieur. Donc on a aussi un monde à explorer. D'ailleurs, si on est aimé, c'est que les autres explorent notre lointain intérieur. L'amour, alors là, pour le coup, pour un autre, c'est explorer son lointain intérieur. C'est dépasser son extérieur. Alors, peut-être l'extérieur peut être une incitation, mais on sait bien que l'amour, le vrai amour, il ne s'en tient pas à l'extérieur. Tout le monde l'a dit, le Saint-Exupéry ou beaucoup d'autres, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que le vrai amour, c'est l'exploration heureuse du lointain intérieur de l'autre. C'est-à-dire que l'autre est si multiple, si profond, tenez, qu'on n'a jamais fini de l'explorer. Et c'est un amour qui n'a pas de fin à ce moment-là. C'est ça, l'amour éternel. C'est qu'on n'aurait jamais fini d'explorer le lointain intérieur de l'autre. Après, on peut s'y perdre, hein. Il y a des couloirs, on pourrait utiliser toutes les métaphores possibles, ça peut être un labyrinthe. Et...
Il faut alors, que j'en passe par l'amour que je me porte.
Ça, c'est une question qui relève des psys ou des psychologues. ou des... C'est-à-dire, est-ce que pour aimer l'autre, il faut ne plus avoir de narcisse, quoi. Voilà. Moi, j'en sais pas plus que vous là-dessus. Je pense qu'on aime mieux si on n'est pas encombré de soi-même, c'est sûr. C'est sûr. Que de toute façon, on aime les gens qui aiment vraiment, même si c'est une passion, je sais pas, la voix, je sais pas, c'est que quand même, il y a la volonté d'être désarçonné. Je crois aimer quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre, c'est sortir de sa base, de ses habitudes, de ses repères. Moi, je pense que c'est le goût de l'inconnu, c'est le désir de l'inconnu. Non, il me semble. Donc l'amour, pour moi, c'est une vigueur, c'est un désir, c'est un pas risqué. C'est toujours un pas risqué, d'abord. Un pari, on peut dire, je fais un jeu de mots, mais c'est un pas risqué, mais un pari. C'est toujours ça, parce que c'est un pas dans l'inconnu. Mais comment on vit sans inconnu qu'on soit ? Si on vit sans inconnu qu'on soit, on n'aime pas. Donc si on n'aime pas, on meurt. On vit, mais on meurt. Oui, on vit. Moi, je dis aux jeunes, je dis, écoutez, si vous n'aimez que ce qui vous ressemble, c'est-à-dire vous-même, ben, ça pue. Bah oui, si vous n'aimez que ceux qui parlent comme vous, qui embrassent comme vous, qui croient comme vous, qui... Mais je dis ça aux jeunes. Ça veut dire que vous aimez vous-même, une image de vous-même, dans les autres. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre, il n'y a que vous, répliqué par les autres. Évidemment, c'est confortable, puisque l'autre, vous pensez le connaître, puisqu'il est vous. Il n'y a pas d'inconnu à ce moment-là. Sauf que vous surprendrez vous-même à être inconnu de vous-même. Mais bon, ça... Mais ce que je dis donc, c'est l'envers de l'amour, évidemment. Et l'amour, c'est forcément la passion de... Ça, André Chédid en parle magnifiquement. C'est l'œuvre qui fait le plus, à mon avis, dans les œuvres contemporaines, une grande œuvre. Elle est toute fondée sur cet éloge de l'autre, et de la vie comme accès à l'autre. L'autre, ce qui déborde nous, qui nous fait sortir de nous-mêmes, ce qui nous fait de... Et je crois que la poésie, elle sert à ça. Même si elle nous fait rejoindre une part de nous-mêmes perdue. Mais c'est cet autre en nous qui était perdu. Vous voyez ? On revient toujours à l'autre, quand même. J'ai répondu un peu ?
Oui, très bien.
Mais moi, je ne sais, ma pensée est qu'une pensée... J'ai beaucoup écrit sur ces choses-là et tout ça, mais en même temps, c'est une pensée qui n'est jamais certaine d'elle-même. C'est ce sont des théorèmes tremblants. Hein, ma théorie de l'amour, c'est une plaisanterie. C'est-à-dire, je veux dire, oui, le titre, d'une certaine façon, c'est une plaisanterie. Je veux dire, vous voulez de la théorie, je vais vous en faire, moi. Mais une vraie théorie, elle est incertaine d'elle-même. La seule qui soit libre, elle est incertaine d'elle-même. Elle a des théorèmes tremblants, elle est fragile, les injonctions sont fragiles, alors que les injonctions que nous... auxquels nous sommes confrontés tous les jours, et les théorèmes de vie qu'on nous propose tous les jours sont certains et sûrs d'eux-mêmes. Pas la moindre latence, pas le moindre conscient d'incertitude. Il faut faire comme ça et pas autrement. Et on s'en prend à juste titre à toutes les idéologies qui enjoignent, qui enferment les gens dans des comportements, enfin, toutes les radicalités religieuses, quelles qu'elles soient, on est d'accord, ou des radicalités idéologiques, etc. Et oui, sauf que c'est plus grave que ça, parce que bien sûr c'est là, mais c'est vraiment présent chez nous aussi. Nous avons tendance à nous enfermer dans des certitudes et dans des théories. C'est confortable. Donc, être poète, c'est forcément être, se déranger soi-même. Au sens propre, se déranger soi-même. C'est fatigant, quoi. Moi, des fois, je suis vraiment un peu beauf. Bon, mais c'est vrai. Faut bien, parce que... je plaisante, mais c'est vrai que je pense que on est tous... Je dis, mon ami peintre, mon ami musicien, tout le monde, et vous autres, vous êtes tous, j'en suis sûr, si vous êtes là aussi, c'est que votre conscience est active. Et donc, vous êtes poète. Il n'y a pas besoin d'écrire des poèmes. Pour moi, c'est ça. Hein. Mais plus on est poète que si on maintient en permanence le feu de la question. Le feu de la question. Et le problème, c'est que c'est fatigant. C'est tout. Ouais, c'est vrai. Avoir toujours les yeux ouverts. Pierre Reverdy a dit cette chose magnifique, un grand poète du XXe siècle français. Hein. Pierre Reverdy, il disait, on ne peut plus dormir tranquille quand on a une fois ouvert les yeux. Ouais. Ouais. L'intranquillité de parler Pessoa. Les poètes sont des insomniaques. Ils ont du mal à dormir. Je veux dire leur conscience.
C'est un grand poète, moi, alors.
Pardon. Non, mais je parle de l'insomnie dans la vie de la vie consciente, dans la vie éveillée. Hein. Je veux dire que beaucoup de. Ce que disait le philosophe Alain que je citais tout à l'heure, il disait la plupart d'entre nous sommes des somnambules. C'est-à-dire, nous marchons, nous vivons, nous faisons des choses, hein, on va travailler, on parle aux autres, etc., mais on dort, en fait. Ce qui voulait dire, en fait, la conscience dort. Et c'est parce que la conscience dort que la conscience humaine dort et qu'elle s'effondre. Et qu'elle n'a plus d'anticorps.
C'est vraiment l'expérience de ton livre. Quand je vois le livre Une théorie de l'amour, je me suis interrogé sur ma propre théorie.
Ouais.
Et là, c'était une sorte de panique. Mais bon sang, mais je ne sais pas mettre des mots sur ma théorie de l'amour alors que je suis un être qui aime. Mais enfin, tu vois, cette mise en mouvement, mais quelle est ma théorie de l'amour? Mais j'en ai pas, mais c'est horrible de ne pas en avoir. Et du coup, tu te mets en mouvement et tu ne dors plus et tu.
Et alors que je fais des insomnies, donc je ne soigne pas. Hein.
Non, mais en même temps, tu vas mettre des mots sur qu'est-ce que ça veut dire pour moi aimer, qu'est-ce que.
Mais l'essentiel, c'est que tu aimes, c'est pas que savoir.
Non, mais je ne dis pas mal. Je trouve ça extraordinaire que quelqu'un m'invite à me poser cette question.
Oui, d'accord.
Et je donnais l'anecdote dans le métro. J'étais dans le métro avec ce livre et moi je me suis posé cette question pour moi, sans trop savoir la réponse. Mais quelle curiosité envers mon voisin. Mais et toi, j'avais envie de dire, mais toi, c'est quoi ta théorie de l'amour?
Non, mais on n'a pas de
mise en mouvement, en fait. Tu vois, c'est ce que je veux dire.
T'as remarqué que la troisième proposition, le troisième aphorisme, je crois, c'est le troisième qui dit aimer, c'est ne pas savoir. Voilà. J'ai dit un visage manque à ceux qui savent.
Non, mais je dis juste que c'est délicieux d'être amené dans ces questions, en fait. C'est ça que je veux dire. Je suis angoissé ou quoi que ce soit la question, mais c'est juste bon qu'on soit amené à se dire mais bon sang, mais comment j'aime. Et ça, c'est génial. Et merci.
Mais finalement, c'est la question qui a plus d'importance que la réponse.
Oui, absolument. Absolument, il n'y a pas de réponse. C'est ça qui fait que les gens sont mal à l'aise avec la poésie. Parce que le texte poétique, quel qu'il soit, ne pose une question à laquelle il n'y a pas de réponse.
Je pensais que tout le monde a accès à la poésie.
Oui, tout le monde. À partir du moment où on fait tomber les défenses. Et les défenses, elles sont multiples. Alors là, j'en parle beaucoup. Je ne vais pas vous faire de la pub de ça coûte 3 euros. Moi, je ne vais pas m'enrichir. Hein. Mais le petit éloge de la poésie, je réponds à ces questions. Vraiment. Je pense que tout le monde peut avoir accès à la poésie. Ceux qui fuient la poésie, la plupart du temps, c'est parce qu'ils ont des représentations de la poésie qu'on leur a inculquées, hein, qui sont dans l'air du temps, qui sont partagées, qui sont fausses. Il y a plein de fausses représentations de la poésie. Et notamment sur la compréhension du poème.
Pardon, au revoir, merci beaucoup.
Bon, je vous en prie. Hein. Au revoir. À bientôt, peut-être, pour une autre fois, ou dans les livres. Bon, mais il faut peut-être qu'on arrête, effectivement, parce qu'on parle.
Moi, je voudrais juste prendre la mi-chose que je lui dois au moins les premiers vers.
Ah oui,
alors. Je suis un peu malade.